La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, en Jésus, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à toutes et tous ici dans ce lieu où aujourd'hui nous allons faire mémoire ensemble. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais d'Internet. Nous sommes en communion ensemble ce matin. Bienvenue aux enfants de l'éducation biblique et qui sont aussi au scoutisme pour quelques-uns. Vous êtes ici dans une journée d'éducation biblique un peu particulière et nous allons discuter ensemble de choses extrêmement importantes pour l'histoire de notre pays, mais aussi pour votre avenir, pour notre avenir à tous. Bienvenue à nos amis du CASP et nous sommes très heureux d'être ensemble avec les amis de la Clairière et du CASP aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui viennent peut-être ici pour la première fois ce matin et qui viennent pour cette journée particulière. Vous êtes ici chez vous, le temps de ce culte, mais bien sûr au-delà. Cette maison est une maison ouverte à toutes et tous. Tous ceux qui cherchent ensemble la paix et le royaume pour notre terre. Bienvenue au cœur de l'oratoire qui est là-haut, tout discret, avec son chef de chœur Alexandre Korovitch, et c'est David Cassan, notre organiste, qui est à la tribune ce matin. Merci à vous. Je vous invite sans plus tarder à entrer dans ce temps de prière, de méditation et de réflexion. Avec le premier répond au début des psautiers, vous avez sans doute reçu à l'entrée un psautier français. Au début du psautier, vous avez toute la liturgie et les réponds du culte. Nous nous levons. Alors, juste Alexandre, pardon, alors ça arrive, hein. Plus, voilà. Alexandre, je crois que tu as les réponses du temps de l'Église et nous sommes dans le répondre du temps de l'éducation biblique ce matin. Merci beaucoup, parce que c'est bien quand l'orgue joue la même chose que ce que chantent les paroissiens, vous voyez.
Et nous louons l'Éternel avec les mots du psalmiste. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous vous invitons à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 66b. 66b que vous trouverez dans le psautier français. Psaume 66b, les strophes 1, 2 et 3.
Je vous invite à vous asseoir. Dans le Deutéronome, Dieu parle à son peuple et lui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes filles et à tes fils. Tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et elles seront un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de la porte de ta maison et aux portes de tes villes.
Prions ensemble. Éternel, pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos sagesses. Pardonne-nous d'avoir restreint notre service à celles et ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour et de générosité. Pardonne-nous nos offenses. À nous, qui pardonnons si peu à ceux qui nous ont offensés. Et apprends-nous à pardonner sans blesser ceux que nous pardonnons. Par Jésus, notre frère. Amen.
Le Seigneur redit sa grâce à celui qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» La réponse revient « Le secours me vient de l'Éternel qui fait le ciel et la terre. Il ne te laissera pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est l'Éternel qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours.
Et nous restons debout pour confesser notre foi. Nous croyons en Dieu, malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Ce matin, nous partageons la lecture de l'Évangile de Matthieu, dans le chapitre 25, les versets 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez en héritage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. » Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger ?» Assoiffés, et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nus, et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous venus te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Je vous invite à chanter le cantique 372, les strophes 1, 2 et 4. Nous nous levons. Nous prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole, qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des évangiles, des bonnes nouvelles pour ce monde. Amen. Je vais inviter maintenant les enfants à rejoindre leur lieu de mini-culte avec Agnès Adeline Schaeffer. Vous allez aller avec les monitrices qui vous accompagnent. Et les enfants du catéchisme restent avec nous. Voilà, donc le dimanche d'éducation biblique, les petits-enfants vont de l'autre côté de la rue dans la maison presbytérale et suivent un culte qui est adapté à leur âge pour qu'ils puissent mieux comprendre les textes avec ce que Agnès va leur expliquer aujourd'hui. Deux mille petits-enfants juifs des deux zones, âgés de 2 à 12 ans, arrachés à leurs parents, viennent d'être envoyés vers l'Est pour une destination inconnue. Des trains interminables de wagons plombés les menaient à la torture, à la mort. Les cris déchirants des innocentes victimes couvraient le bruit des roues. Semait l'épouvante et l'horreur tout au long de la route. Mère française, lorsque vous embrassez vos enfants le soir, dans leur lit, avant leur sommeil heureux, quand le matin vous cueillez le premier sourire de votre enfant réveillé, songez à ces trains infernaux. Ne vous faites pas par votre silence complice des assassins. Ce tract du mouvement national contre le racisme, daté de novembre 1942, est un cri qui retentit. Comme cette voix dont parle l'évangile de Matthieu en racontant la naissance d'un enfant Jésus menacé de mort lui aussi. C'est la voix qui s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus, dit le texte. La réalité décrite dans ce tract est comme une lame qui vient couper la conscience de celles et ceux qui le lisent et qui sont devant l'impératif pratique de l'action. Laisser se poursuivre l'enfer, ou bien faire advenir le règne de Dieu. Telle est bien l'alternative ici. Toute action est manichéenne, écrivait André Malraux en 1937 dans son roman L'espoir sur la guerre d'Espagne et contre le fascisme. Les actions que nous commémorons aujourd'hui en sont l'illustration parfaite. Quand la police française débarque le 9 février 1943 dans les foyers de l'UGIF, qui ont été créés par le gouvernement de Vichy afin de regrouper les orphelins des familles juives dont les parents ont été déportés vers les camps de concentration, ce sont les enfants qui sont raflés pour être déportés. Dans les trois convois qui quittent Drancy les 9, 11 et 13 février 1943, se trouve un total de 460 enfants. En cinq jours, on a décidé de rafler et déporter des enfants qui vont mourir dans les chambres à gaz dès leur arrivée à Auschwitz. Les groupes de résistants juifs et non-juifs sont sous le choc et une femme va décider d'agir. Suzanne Spack répète « Il faut faire quelque chose ». Agir ou laisser faire. C'est à cet endroit du choix que se joue la vie éternelle dont parle la parabole du jugement dernier dans Matthieu. Il ne s'agit pas seulement du devoir moral ici, mais d'un choix existentiel.
Suzanne Spack et celles et ceux qui vont entrer dans ce réseau extraordinaire de courage et d'audace sont à la croisée des chemins. Ils jouent leur vie au sens réel comme au sens existentiel. Qui seront-ils s'ils ne le font pas? La parabole du jugement dernier que Jésus nous adresse est comme un récit écrit au futur antérieur. Il nous exhorte à répondre à cette question « Quand tu ne seras plus, qu'auras-tu fait de ta vie ? Qu'auras-tu fait pour celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est nu, qui est malade ou emprisonné ? Qui auras-tu été pour tes contemporains ? La vie éternelle naît là où des femmes, des hommes, des enfants, car il y a eu des enfants qui se sont levés contre cela, se lèvent pour agir pour d'autres, pour que la vie d'autres qu'eux-mêmes soit sauvée. Croyant ou non croyant en Dieu, peu importe, ce n'est pas le problème ici. La parabole du jugement dernier ne parle pas de la foi en Dieu ou de la religion. Elle parle des actes que notre humanité est capable de faire pour que l'autre reste avec nous dans la communauté des hommes. Suzanne Spack est déjà engagée dans le mouvement national contre le racisme, au moment où elle se répète « il faut faire quelque chose ». Sans doute est-elle engagée de la sorte parce qu'elle sait que le fascisme est une entreprise d'exclusion d'hommes et de femmes et d'enfants de la communauté des humains. Et cette pensée qu'il puisse y avoir des exclus de la dignité humaine lui est insupportable. Ce n'est donc ni par esprit de sacrifice d'elle-même, ni par conviction religieuse, ni par esprit patriotique que cette femme qui avait tout loisir de rester dans le confort de son mode de vie va s'engager pour les enfants juifs menacés de mort. C'est par humanité, par ce qui la relie à ses enfants dans sa condition humaine, que Suzanne Spack va s'engager. Et cette décision est grave à tous égards. En agissant dans ce contexte dans lequel chacun est surveillé par l'occupant, mais aussi par son voisin, par l'ancien ami ou par un membre de la famille, où les risques d'arrestation sont énormes, elle met sa vie dans la balance de la justice. Toutes celles et ceux qui vont travailler avec elle à cette entreprise improbable y engageront aussi leur vie. Si l'entreprise échoue, elle apportera l'enfer à nombre de personnes engagées comme elle, mais évidemment, la vie des enfants sera anéantie. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, dit l'évangile de Matthieu. Le royaume des cieux est à eux. Mais le plan qu'élabore Suzanne Spack n'a pas comme visée le martyre. Elle n'a rien à prouver, rien à gagner pour elle-même. La seule fin qu'elle poursuit, c'est la vie sauve de ses enfants. Et c'est à partir de cet horizon que des liens vont se tisser entre des groupes et des personnes qui ne se seraient sans doute jamais alliées si la raison n'avait pas été suffisante. Il s'agit d'arracher à la mort des enfants, et ce sont des groupes humains très différents qui vont unir leurs forces et leur intelligence pour réussir, pendant qu'il en est encore temps, ce sauvetage de la dernière chance. Le temps presse. Les résistants juifs, les groupes communistes juifs, la paroisse protestante de l'oratoire, les dames de l'entraide temporaire, les bénévoles de la clairière, les éclaireuses qui ont déjà accueilli des camarades juives qui ont vu disparaître leurs activités de scoutisme à cause des lois qui les empêchent de se réunir. Toutes ces personnes vont se coordonner avec un sérieux tel que rien ne semble pouvoir les empêcher de réussir. Chacun a dans son cœur, dans son intelligence, la gravité de la situation. Car il ne s'agit pas ici d'une impulsion altruiste qui se nourrit de bons sentiments, non, il s'agit de mettre toute son intelligence dans le calcul des chances de réussite. Le plan est simple mais redoutable à mettre en œuvre. Sortir pour une simple promenade les enfants des orphelinats, les emmener à la clairière, le centre social lié à l'oratoire du Louvre, et de là, les orienter dans des familles qui les reçoivent et les mettent à l'abri. Sur le papier, c'est limpide. Mais en réalité, il faut que chaque maillon de la chaîne tienne et que la confiance soit absolue à chaque étape. À l'oratoire, Marcel Guilmaud, l'assistante sociale de la clairière, recrute des marraines en glissant un petit mot dactylographié dans la main des femmes qui quittent le culte à l'oratoire le dimanche matin et qu'elles jugent être fiables. Il faut ensuite, quand les marraines vont chercher les enfants dans les orphelinats, les emmener dans des familles parisiennes indiquées et prévenues par le pasteur Vergara, pour qu'ils puissent passer leur première nuit de clandestinité sans éveiller les soupçons, bien sûr. Puis le lendemain, au retour à la clairière, où les éclaireuses récupèrent les enfants pour les emmener dans des familles où ils seront placés clandestinement. Il faut vêtir les enfants, les nourrir, découdre l'étoile jaune, leur donner de faux papiers. Une myriade de détails qui nécessitent la plus grande attention pour que le réseau ne se casse pas. Le miracle, c'est que personne n'a failli. Au moins 63 enfants ont été sauvés par cette opération. Mais ce n'est pas en chiffres qu'il faut raisonner, mais en vies humaines qui ont pu continuer à exister. Pour une seule de ces vies, il aurait fallu faire quelque chose. Mais toutes ces femmes et ces hommes l'ont fait pour un nombre considérable d'enfants et cela rendait leur tâche encore plus périlleuse et plus admirable. L'évangile de Matthieu dit que les justes iront à la vie éternelle. Et les justes que décrit la parabole du jugement dernier sont ceux qui ont fait ce qu'il fallait pour que les autres vivent et souffrent moins. J'oserais dire tout simplement. On pourrait qualifier cette opération d'héroïque et l'on aurait raison. Mais cet héroïsme ne doit pas nous arrêter au niveau de l'admiration. Faire mémoire de ces actes, de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants n'a de sens que si nous prenons le temps de les rapporter à notre propre existence. Pourquoi agissons-nous ? Beaucoup d'anonymes ont œuvré sans penser qu'ils étaient héroïques, sans même le désirer, mais simplement parce que leur existence passait par la préservation de la vie d'enfants qui n'avaient rien demandé, qui n'étaient coupables de rien et qui se retrouvaient victimes de l'atroce arbitraire d'un racisme d'État. Nous vivons dans une autre époque, une réalité différente, et sans doute l'urgence vitale ne se pose-t-elle pas pour nous aujourd'hui comme elle se posait en 1943. Mais si la mémoire interroge vraiment notre présent, alors je me pose la question, serions-nous capables à notre tour, dans des circonstances aussi difficiles, de nous unir au-delà des convictions personnelles, des a priori habituels, des jugements de valeur qui nous divisent si souvent, pour nous élever ensemble au niveau de la vie éternelle. Qui d'entre nous peut dire ce qu'il aurait fait du petit papier glissé dans la main à la sortie du culte ? Qui exposerait sa vie pour la vie d'un enfant qu'il ne connaît pas et qui jusqu'alors ne représentait rien pour lui ? Quelle raison suffisante nous faut-il pour agir de façon désintéressée ? J'ignore moi-même comment répondre à ces questions. Les réponses à leur apporter ne sont pas des déclarations d'intention, mais elles nous attendent dans les actes que nous poserons au cours de nos existences, quand il le faudra. Pourtant, je voudrais oser dire aux jeunes qui sont avec nous aujourd'hui et aux enfants dont la responsabilité nous incombe, que nous serons là pour eux, quoi qu'il arrive dans notre histoire. Comme Marcel Guilmaud, Paul Vergara ou Susan Spack furent là pour les enfants qu'ils sauvèrent. Comme Suzanne fut là pour sa fille, alors même qu'elle était incarcérée à la prison de Fresnes, une prison appelée par celle qui la connaissait « l'usine à désespoir ». Et cette maman qui transmettait sa droiture à l'adolescente que sa fille était alors en lui écrivant ces mots rassurants. Je crois que j'ai la chance d'avoir un caractère qui s'adapte à tout. Je crois surtout que quand on a la conscience tranquille, on peut toujours trouver du goût à vivre. Je voudrais pouvoir dire aux enfants que quelle que soit leur origine, leur culture, leur langue et les classifications dans lesquelles on essaie de les faire entrer, ils trouveront sur leur chemin des adultes qui construisent une société tolérante, équitable et accueillante pour qu'ils puissent grandir en paix. Je voudrais pouvoir leur dire que nous sommes engagés pour construire le monde habitable dont ils ont besoin afin de vivre librement. Je voudrais pouvoir les appeler mes enfants, sans avoir à rougir de ce pronom possessif qui engage la responsabilité de tout adulte qui doit prendre soin de la générosité, qui doit prendre soin de ceux qui les succèdent. Je voudrais pouvoir leur dire que s'il faut faire quelque chose, nous ferons ce qu'il faut. Mais je sais que passer de la phrase « il faut faire quelque chose » à l'action concrète qui aide véritablement son prochain et qui le sauve si nécessaire n'est rien moins que franchir l'écart qui sépare nos vies limitées de la vie éternelle. Alors je reprendrai simplement l'enseignement du pasteur Vergara dans sa prédication du 14 février 1943, qui portait sur « Dieu créa l'homme à l'image de Dieu » pour rappeler avec lui que le meilleur moyen de servir Dieu est d'aider son prochain. Que la grâce nous soit donnée de le faire avec le même courage que ceux dont nous faisons mémoire aujourd'hui. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 258 dans les louanges et prières. Tu me veux à ton service, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Alors, non, mais les éclaireurs, vous pouvez vous asseoir là. Hein. Venez vous asseoir. Oui. On ne va pas vous faire retourner comme ça. On vous écoutera tout à l'heure pour votre annonce, pour vos activités. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous invite maintenant à participer à un temps de collecte pour notre Église. C'est le moment de pouvoir partager nos biens pour que cette Église continue à annoncer l'Évangile, à accueillir et à aider son prochain. Merci. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te demandons pour notre société de nous aider à construire ce monde de paix dont chaque personne a besoin. Permet que nous soyons capables de nous unir pour le construire ensemble. Aide-nous à avoir le courage de faire reculer les paroles menaçantes, les idéologies de la haine, les thèses racistes, toutes ces choses que les hommes inventent pour classer, répertorier, exclure ceux qui partagent pourtant la même condition humaine. Aide-nous à être de ceux qui se lèvent contre cette haine. Aide-nous à faire reculer la peur, cette peur qui resserre les consciences, qui empêche de s'ouvrir aux autres, qui referme les poings là où il faut ouvrir les mains. Éternel, aide-nous à être des porteurs d'histoire pour que l'avenir s'éclaire de racines passées et qu'à aucun moment cela ne devienne un identitarisme. Que toujours cela devienne la leçon qui nous permet d'avancer dans l'amitié avec celles et ceux que tu mets sur notre chemin. Éternel, nous te prions pour les enfants d'aujourd'hui qui sont sous le joug de pouvoirs terribles, qui les réduisent en esclavage, qui ne les protègent pas, ou qui les font mourir sous des bombes. Nous te demandons, Éternel, de nous aider à ne pas fermer les yeux sur les enfants qui sont dans notre propre pays en danger. Sur les trottoirs de nos villes, certains dorment dans le froid. Hier soir encore, les familles à la rue, de plus en plus nombreuses, sont là et nous attendent. Serons-nous capables de faire pour elles ce qu'il faut faire pour que les enfants aient un avenir? Nous te demandons, Éternel, d'avoir ce courage, cette générosité, cette intelligence, de permettre à tous ces enfants de grandir en paix dans notre propre pays. Éternel, nous te demandons, au moment où la menace de la guerre n'est pas complètement impossible, loin de là, d'être de ceux qui travaillent pour la paix et qui s'arment pour l'avenir de la solidarité qu'il est nécessaire d'avoir entre nous. Nous te remettons tous les enfants d'Ukraine qui sont sous les bombardements ou qui sont exilés très loin de leur pays. Et nous te remettons les enfants des combattants russes partis se battre et qui ne reviendront pas. Éternel, ouvre grand nos cœurs et permet que nous ayons la constance, le courage et la gravité nécessaires pour tenir droit devant les devoirs que tu mets face à nous. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous allons partager un temps d'annonce. Et c'est Aurore, notre présidente du Conseil presbytéral, qui partage avec nous ces annonces.
Merci Béatrice. Bonjour à tous. Comme nous venons d'avoir un temps de prière, notamment pour les enfants qui sont à la rue en ce moment, j'appelle Samuel Coppens, qui est président du Centre d'action sociale protestant et qui voudrait vous faire un appel d'urgence.
Pardonne-nous nos silences quand nous devons prendre la parole. Ça a été dit par Agnès tout à l'heure, ça m'a touché parce que jeudi, nous avions notre bureau du conseil d'administration et la directrice nous faisait rapport de ce qui se passe actuellement et nous nous sommes indignés. Je crois que c'est le mot que nous avons pris les uns et les autres tout près d'ici, au presbytère. Des enfants dorment à la rue, des familles dorment à la rue. Ce matin, tout ce que nous avons entendu était relativement triste, grave, et en même temps plein d'espérance. C'est le message que je veux vous délivrer ce matin. Ce que je souhaite vous dire, c'est que nous pouvons le dire parce que nous agissons. Donc parce que nous agissons, nous pouvons protester. Nous pouvons dire, cela n'est pas tolérable. Vous savez, tous les jours, une de nos structures, qui est la seule à Paris, qui accueille des familles et des enfants en grande difficulté qui vivent à la rue, tous les soirs à 17h, ferment leurs portes. Et un certain nombre de ces familles ne trouvent pas de lieu pour dormir. Eh bien, cela est inacceptable. Et c'est le mot d'ordre du CASP, combattre l'inacceptable. Alors, je suis simplement venu vous dire, nous avons besoin de vous, levez-vous, n'acceptons pas cela. Et donc, j'en réclame d'une part à ce que vous soyez des véritables ambassadeurs de cette cause, que vous soyez véritablement des porte-paroles de cela, c'est inacceptable. Et puis vous pouvez, comme vous le souhaitez, contribuer, soutenir, aider l'ensemble de nos professionnels, l'ensemble de nos bénévoles à œuvrer pour faire en sorte que ces enfants, demain, soient des adultes que nous puissions regarder et qui puissent nous regarder véritablement avec confiance. C'est ce que je suis simplement venu vous dire. La situation est grave. En 54, l'abbé Pierre avait dit « un enfant est mort ». C'était il y a longtemps, la situation n'a pas beaucoup changé. Mais en tout cas, ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'il y a une espérance possible pour ces enfants, alors que chacun soit de la place qui est la sienne, y compris les jeunes bien entendu, des témoins du fait que nous pouvons bouger, changer les choses. Merci de nous aider, allez sur CASP Info, allez sur notre site, aidez-nous, vous pouvez devenir bénévole, vous pouvez venir famille accueillante, famille de parrainage peut-être, comme nous l'avons entendu ce matin, ou simplement, mais c'est important aussi, donateur. Merci, merci de votre soutien, ils en ont besoin.
Merci Samuel. Samuel reste, Coppens, président du CASP, reste avec nous, reste Toute la journée, il porte un badge, la clairière, CASP. Vous verrez, à partir de midi, un certain nombre d'entre vous porter des badges, des familles qui ont aidé en 1943. Donc vous aurez la famille Spack, la famille Vergara. Malheureusement, nous n'avons pas de famille Marcel Guillemot, mais Marcel Guillemot était la directrice du Centre d'Action Sociale de l'Oratoire du Louvre à l'époque, la Clairière, qui appartient aujourd'hui au CASP. Donc Samuel portera, avec toutes les équipes de la Clairière, un badge, la Clairière. Pourquoi nous avons proposé ces badges? C'est pour que toute la journée, vous puissiez échanger avec ceux ou les descendants de ceux qui ont pu aider, et également avec les responsables d'un certain nombre d'associations qui seront aussi avec nous tout à l'heure. Donc le programme de la journée, n'oublions pas les gâteaux de la patrouille des chamois. Juste à la sortie du culte, donc vous avez gâteaux sucrés et salés, et ça tombe très très bien parce qu'aujourd'hui nous aurons à peine le temps de déjeuner, puisque juste après le culte, vous allez chercher des gâteaux salés et sucrés à la patrouille des chamois. Après, vous revenez, nous avons Anne Vergara qui est avec nous. Je sais qu'elle est avec nous. Donc à 12h, vous savez, nous avons beaucoup parlé des chemins de l'aube de Sylvain Vergara. Sylvain Vergara est le fils du pasteur Paul Vergara. Il est décédé aujourd'hui. Ses enfants ont réussi à rééditer un de ses ouvrages qui sera le thème du livre et spiritualité de 12h à 13h ici même. Donc 12h à 13h, livre et spiritualité, les chemins de l'aube, qui est, si vous ne l'avez pas acheté, à notre stand librairie, au stand librairie de la éphémère de la librairie Jean Calvin. Vous y trouverez également d'autres ouvrages, notamment l'ouvrage de Sami Dassa, malheureusement pas l'ouvrage de Anne Nelson, puisqu'il n'existe plus, il est épuisé en français, mais il existe sur Google. À 14h, nous avons deux témoins de 1943, la fille de Suzanne Spack, Pilette Spack, qui était donc à l'œuvre en 43, qui vient nous voir à 14h. Sami Dassa est un enfant non pas sauvé par le réseau de la clairière, mais vous comprendrez à 14h tous les réseaux, le réseau de l'entraide temporaire. Il en parlera ici même aussi à 14h, avec Anne Nelson, qui vient exprès des États-Unis vous raconter la biographie de Suzanne Spack. Elle est là, elle est au dernier rang. Elle aura un badge également. Et Jean Barra, qui est réalisateur, qui est en train de réaliser un documentaire sur toutes ces histoires et tous ces réseaux de 43 qui ont sauvé des enfants. Donc vraiment, restez avec nous. À 15h, il y aura l'inauguration officielle de la plaque. Et à 16h, un grand goûter avec les scouts, les bénévoles de l'entraide et nous tous, pour qu'on puisse continuer à échanger, puisque malheureusement, le temps aujourd'hui va être compté. Donc, les échanges, on va essayer de les avoir en marge de tous les événements que je viens de citer. Voilà, merci infiniment d'être déjà venus si nombreux. Je vous en prie, venez également à 14h, ou alors à 15h précise, mais ça serait vraiment terrible d'avoir nos témoins de 1943 dérangés par des gens qui ne viendraient que pour la plaque. Ça nous ferait vraiment, vraiment très mal au cœur. Ça risque d'être le cas de certains officiels, mais c'est ainsi. Voilà, merci beaucoup et bon dimanche et à tout à l'heure.
Et je voulais juste rajouter un grand merci à Anne Nelson pour son livre qui m'a permis de préparer ce culte ce matin. Je vous remercie infiniment.
Pardonnez-moi, grâce à la clairière et aux archives de la clairière, nous avons retrouvé un in memoriam écrit par le pasteur Paul Vergara sur Marcel Guillemot, l'assistante sociale. Nous l'avons réédité en 100 exemplaires. Il est aussi en vente à la librairie Jean Calvin. Nous avons retrouvé, et nous sommes encore en train de retrouver, beaucoup, beaucoup de témoignages de l'époque. Il faudrait nous encourager, si ça vous intéresse, on va continuer à en republier régulièrement, parce que vraiment des textes sont absolument fabuleux et pas forcément connus. Vous en trouvez beaucoup dans le livre de Suzanne, sur le livre de Dan Nelson sur Suzanne Spack. Vous en trouvez aussi beaucoup dans le livre de Sami Dassa qui est en vente. à la librairie, mais il y en a plein d'autres, et j'ai déjà rencontré ce matin des membres de la famille Béchard qu'on avait perdu, d'autres, un mari d'une éclaireuse de l'époque. Donc vraiment que cette journée nous apporte plein de possibilités d'alimenter ce besoin de mémoire. Merci à tous.
Merci. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Allez, frères et sœurs, dans ce monde. Il est tel qu'il est. Il n'est pas toujours beau. Mais tous ceux qui le peuplent sont les enfants de Dieu. Alors allons porter ce message de paix, de solidarité, de générosité dans ce monde qui en a tellement besoin. Chaque vie est infiniment précieuse. Aux yeux de Dieu, elle doit l'être à nos yeux. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous fait grâce et nous bénit. Voilà, et nous nous retrouvons maintenant pour la présentation du livre « Les chemins de l'aube » de Sylvain Vergara avec Anne Vergara. Merci.